Bonjour à toutes, je m'appelle Gemma, je suis outre-mangeuse compulsive et merci beaucoup Pamela pour m'avoir invitée ce soir pour faire un partage. Je suis très excitée et vraiment émue parce que c'est mon premier partage en français. Donc excusez-moi si je fais des fautes en français, ça fait un petit moment que j'ai pas parlé le français. Mais quand Pamela m'a demandé de faire ce partage, j'étais vraiment beaucoup touchée parce que depuis très longtemps, dans mon rétablissement, je me suis rendu compte à travers le rétablissement OA que la relation la plus intime que j'avais jusqu'au moment du rétablissement, c'était avec la nourriture. La nourriture était ma meilleure amie et mon pire ennemi. Ça a dû commencer dans mon enfance. J'ai un petit peu quelques souvenirs d'outre-mangeuse dans mon enfance, mais où ça a vraiment commencé, c'est entre la période de 10, 11, 12, 13, 14 ans. Donc vraiment avant que la sexualité, les petits copains, les copines commencent à s'agiter, commencer, etc. Et je me souviens avoir entre 11 et 12 ans vraiment très peur de la sexualité, vraiment très peur du viol. Je pense que c'est quelque chose que on m'a expliqué comment faire des bébés quand j'avais 8 ans. Ma mère, après, quand je suis rentrée à la maison, parce que bien sûr, j'ai entendu quelque chose à l'école, tu sais, le bâton de papa, il va dans le truc de la maman. T'as 8 ans, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on me raconte? T'as ta naïveté qui prend un choc, quoi. Donc, tu rentres à la maison et tu répètes là, exactement la même chose à ta mère. Puis ta maman, bon, laisse-moi t'expliquer qu'il faut s'aimer d'abord, tu vois. Elle a essayé de son mieux. Voilà. On me dit la chose, mais je sais pas pourquoi. L'avant-puberté, j'ai eu très très peur du viol, de la sexualité, des choses comme ça. Et c'est là où ma nourriture a vraiment commencé à prendre beaucoup beaucoup d'ampleur. Ma maman, avant, elle travaillait pas quand j'étais petite. Et puis à 10, 11, 12 ans, elle a commencé à travailler. Donc après l'école, c'était génial. Je faisais mon goûter, je faisais mon dîner. Et puis les quantités ont commencé à monter, monter, monter. Et j'avais toujours un petit peu de pro après 8-9 ans, j'avais toujours des problèmes avec mon poids. Et en gros, entre l'âge de 12-13 ans jusqu'à ce que j'arrive en rétablissement, donc pendant 20 ans, mon poids, il a fait un espèce de yo-yo. J'étais vraiment jamais mince. Je pense que le plus large que j'étais, c'était 73 kilos. Donc, quand on fait 1m51, c'est relativement lourd. Voilà, c'est lourd à porter. Mais il y avait toujours quelque chose en moi qui avait très peur d'être obèse parce que ma maman elle est obèse. Donc la minute où j'arrivais devant l'obésité, je commençais à aller à contrôler ma nourriture. Donc je commençais à essayer de faire des régimes, ou de sauter des repas, ou de trouver des solutions qui moi en fait me convenaient. Parce que comme je me rendais pas compte à l'époque, j'étais compulsive à outre manger. Il fallait que dans mon régime, à un moment donné ou un autre, outre manger rentre dans mon régime. Mais il fallait que je perde du poids en même temps. Donc je faisais un régime vraiment manger pire qu'un lapin, la carotte, la salade, le truc. Ouais, je vais perdre du poids super vite parce que ma solution pour moi, mon bonheur, dépendait de mon poids. J'étais complètement convaincue que si j'étais fine, je plairais aux garçons. Et puis voilà, j'étais complètement persuadée que mon bonheur, c'était d'être fine et dans une relation avec un autre. Et il n'y avait rien à voir avec moi, m'aimer moi-même, aimer mon corps et comprendre comment ma sexualité fonctionnait. Et ma sexualité, à partir de l'âge de 15-16 ans, elle est complètement partie en… C'était libre arbitre à du tout et n'importe quoi. Donc, moi, j'ai commencé à grandir dans les années 90 dans le sud de la France. C'était très open. Donc, on a fait du tout et du n'importe quoi. Et moi, je pensais, ouais, parce que je suis femme libre, puis je fais ce que je veux avec mon corps. Je fais surtout n'importe quoi avec mon corps. Et j'étais complètement déconnectée de mon corps parce que quand je mange, je ressens plus rien en fait. Ça étouffe mes émotions. Moi, j'ai pas besoin d'un joint. Honnêtement, j'avais pas besoin d'un joint. J'avais juste besoin de bouffer. Puis j'étais bien. C'était ma drogue, quoi. J'étais dans mon petit nirvana. Surtout quand j'ai découvert la télé, Netflix et bouffé. Oh, voilà, c'était super. J'avais mon attention qui était focalisée sur la télé, sur les épisodes de je sais pas quoi. Et on bouffait en même temps. Et ma vie, elle a malheureusement ce que je ne me suis pas rendu compte, en fait, me droguer comme ça avec la nourriture. Et puis, je mangeais très, très mal. C'est-à-dire que je savais pas me nourrir. Je donnais pas à mon corps l'énergie qu'il avait besoin. Donc, je mangeais énormément de sucre. Moi, je suis vraiment une accro au sucre. Et puis une fois que j'avais mangé du sucre, c'était aussi j'avais complètement bousillé mon palais et mes goûts. Donc, la nourriture salée, fallait qu'elle soit très, très forte. Donc, tout ce qui est pizza et tutti quanti. Donc, fallait vraiment, le plus je mangeais sucré ou le plus je mangeais salé, c'est comme une drogue, en fait. C'est qu'à un moment donné, j'ai besoin que ça soit plus salé, j'ai besoin que ça soit plus sucré, etc. Et à 25 ans, bah, j'ai déménagé en Angleterre. Et alors là, c'est le paradis de l'outre-mangeuse, quoi. C'est comme les États-Unis, il y a du chocolat partout, il y a du. On peut à 2 heures du matin commander à manger, je faisais semblant que je vivais avec 10 personnes, c'est pour ça que je commandais 10 pizzas. Enfin, c'était à 25 ans en Angleterre, c'est ça, c'est parti sur un autre échelon. Et donc, ma relation avec mon corps, elle était très inconfortable parce qu'en ayant du poids, bah, j'avais du mal à bouger déjà. Comme je suis très petite, mon père est espagnol, donc j'ai des cuisses qui sont déjà bien, bien costauds. On a les bonnes petites cuisses du pays pyrénéen, hein, pour monter les montagnes. Et donc, en ayant du poids, j'avais les jambes qui frottaient, j'avais les bourrelets dans l'arrière du dos. Enfin, et je me touchais toujours, tu sais, une fois après avoir outre-mangé, je me touchais les bourrelets comme si j'avais envie de les arracher. C'était vraiment. Puis je m'asseyais, je les sentais dans mon dos. Et puis alors là, c'était le début de la fin où j'étais très cruelle avec moi-même, où je me disais, mais t'es vraiment qu'une moins que rien. Allez, demain, on va se remettre sur le régime. Et puis, mais je me parlais dans ma tête comme une personne, à mon pire ennemi, je ne parlerai pas. Et donc, ce que je ne me rendais pas à l'époque, c'est qu'au fur et à mesure, manger cette façon-là, c'était de vivre cette façon-là. Et ça a complètement influencé qui je suis, mes décisions. Ça a complètement influencé ma relation avec mon corps, ma relation avec les autres, donc pas juste des relations amoureuses, mais aussi des relations avec ma famille, avec mes amis, avec mes patrons, mes collègues, etc. Donc je me reconnais aussi comme une codépendante, c'est-à-dire que ben voilà, je vais toujours essayer d'aider les autres, d'aider les autres, d'aider les autres, d'aider les autres. Et ça fait que moi, après, je suis complètement vide. Et puis, ben, la nourriture me remplit ou avoir la délusion de me remplir. Et comme une drogue, en fait, au fur et à mesure des années, l'effet, en fait, de la nourriture commençait à être de moins en moins. Et la quantité commençait à être vraiment, vraiment de plus en plus. Et comme je disais, ma sexualité, c'était du tout et du n'importe quoi jusqu'à ce que je rencontre mon ex-mari, qui à l'époque était drogué, était accro à la marijuana et alcoolique. Et j'étais tellement dans ma bulle d'outre-mangeuse que moi, j'étais pas du tout consciente qu'il était alcoolique. Mais alors pas du tout, parce que bien sûr, j'étais très attirée par d'autres addicts et c'est pas quelque chose foncièrement que je reconnaissais. C'est quelque chose avec lequel aussi j'ai grandi. Ma mère est une outre-mangeuse et mon père, il est un alcoolique. Donc pour moi, c'était des comportements entre guillemets normaux. J'ai pas foncièrement reconnu, mon Dieu, je suis avec un alcoolique fini. Donc on a passé, je pense qu'on était 8 ans et demi ensemble, on s'est mariés, c'était une catastrophe absolue. Et après qu'on s'est séparés, c'était vraiment le début de la fin. Et en 18 mois, je suis vraiment rentrée, j'étais déjà très dépressive. Depuis l'âge de 12-13 ans, j'étais très dépressive, mais j'étais élevée à pas le montrer. Donc, le parent dominant dans mon éducation, c'est ma maman, et elle est anglaise. Et donc, il y a cette culture de pas montrer ses sentiments, une fois qu'on est en public ou avec les autres, il faut toujours être bien, faut toujours parler aux autres, les faire confortables, etc. Donc, ma dépression comme ma nourriture, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup caché. Et j'ai perdu mon job. Et comme j'étais absolument accro à mon travail, alors c'était vraiment, c'était le début de la fin pour moi. Et quand j'étais dans la nourriture, c'était où j'étais complètement en obsession de ce que j'allais bouffer et quand j'allais bouffer et comment j'allais bouffer, où j'étais complètement dans l'obsession du régime. Il n'y avait rien entre les deux. Et la seule chose qui m'arrêtait de, entre guillemets, me donner une pause, d'arrêter un petit peu de penser à la nourriture pendant peut-être 2 secondes et demie, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de vie entre une pensée obsessionnelle de la nourriture à une autre, c'était quand j'étais au travail. Parce que c'est vrai qu'au travail, ça me donnait un petit peu cet effet de penser à autre chose et j'étais complètement accro à ça aussi. Enfin, si vous m'aurez rencontré il y a 7 ans en arrière quand j'étais pas en établissement, la seule chose dont je pouvais vous parler, c'était peut-être des mecs que je m'étais tapé ou du travail que je me croyais que j'étais en train de faire. Et donc je perds mon travail, on me vire, la pire chose qui puisse m'arriver. Et j'étais en thérapie pour la nourriture parce que j'avais vraiment marre en fait d'être grosse quoi. Je voulais plus avoir ce poids. Je me suis jamais dit tiens pourquoi pas commencer à manger sainement pour le reste de ta vie. Non non, c'est je veux être maigre et puis pouvoir manger mon gâteau quoi. Mon gâteau c'était vraiment ma drogue, c'est pas autre chose. Et donc une fois que j'ai perdu mon travail, bah j'avais pas l'argent pour payer la thérapie parce que j'arrivais pas à trouver un travail tout de suite, ce qui était relativement très bizarre pour moi parce qu'en Angleterre j'ai toujours réussi à trouver du travail très vite, mais pas cette fois-ci. Et je me suis souvenue que ma maman m'avait dit ah ben tiens il y a des groupes entre guillemets, il y a des groupes d'outre-mangeurs. Enfin, elle avait déjà entendu à parler d'Oa, donc bah, je suis allée à Oa et je suis allée à mon premier meeting. Et comment expliquer mon premier meeting? Je suis rentrée en fait dans les portes et j'ai senti pour la première fois un sentiment que j'ai jamais ressenti, c'était de la timidité. Et alors la timidité, c'est pas quelque chose que je connais. Et je me suis sentie très, pas intimidée, mais très timide. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais arrivée dans un espace pour la première fois de ma vie, ben, que je pouvais plus mentir en fait. Et donc je suis pas juste compulsif outre-mangeuse, je suis aussi compulsif menteuse. Je mens énormément. Quand je suis vraiment dans l'addiction, je mens énormément sur tout et n'importe quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ce premier meeting, mais pour la première fois, j'ai été vraiment vraie, j'ai dit la vérité. Et en fait, ben, je connaissais rien au meeting OA, et puis on s'est tous assis en cercle, et puis comme vous, on a fait le préambule, ils ont parlé des 12 étapes, puis alors moi, je viens d'un environnement super anti-religieux, donc la minute où ils ont parlé de Dieu, j'ai fait, wow, c'est quoi cet espace? Mais j'étais tellement, mais au pire, du fond, du fond, du fond. Et en fait, eh ben, chaque personne a pris son tour à commencer à partager. J'avais jamais rencontré ces personnes de ma vie. Il y avait peut-être une quinzaine de personnes dans la salle. Et ils ont tous, pendant 3, 4 minutes, commencé à partager. Et avec chaque personne, j'ai pu m'identifier. Je connaissais pas leur nom. Je connaissais pas d'où ils viennent. Surtout à Londres, bah, c'est super parce que c'est une communauté internationale. Donc, t'as un Anglais, t'as quelqu'un qui vient du Ghana, t'as quelqu'un qui vient du Canada. Donc vraiment de toutes les nationalités et chaque personne, je pouvais m'identifier avec eux. Cette relation tellement intime, tellement intrinsèque avec la nourriture. Et donc est arrivé mon tour et je me suis complètement ouverte et pour la première fois de ma vie, j'ai été honnête, vraiment honnête. Et c'était au-delà de mon propre pouvoir. Donc sur mon propre pouvoir, quand Gemma fait sa petite vie, je sais pas être honnête. J'ai beaucoup besoin d'avoir de solutions spirituelles pour ça. Et donc j'ai beaucoup de c'était la seule chose sur laquelle bah, chaque dimanche je revenais au meeting, je revenais au meeting et puis il me disait va à d'autres meetings, trouve un sponsor, enfin trouve une marraine, fais les étapes. Et je n'arrivais pas à aller à d'autres meetings. Donc moi j'ai jamais pu en fait avoir une relation, enfin j'ai jamais pu aller à plus de 3 cours de danse ou tenir un job pendant plus de 2, 3 ans. Il fallait toujours que je change. Je savais jamais me poser et m'investir dans une relation ou dans quelque chose. Et c'est la première fois de ma vie que tous les dimanches j'allais à ce meeting. Et j'ai commencé à faire du service très très tôt. Et c'est en faisant du service que ça a amené mon corps en fait dans cet espace-là. Et donc j'ai trouvé quelqu'un pour m'amener à travers les étapes. Et donc moi je fais les étapes à travers le gros livre parce que pour moi le gros livre c'est vraiment l'endroit où il y a la solution. Et en faisant l'étape 1, donc la façon dont on travaille les étapes, on regarde vraiment beaucoup les principes spirituels de chaque étape. Et l'étape 1, ils me disent, bah, le principe spirituel de la première étape, c'est l'honnêteté. Bon, alors ça. Moi, tout ce que je sais, c'est mentir. Et surtout quand ça vient à la nourriture. Mais en fait, ce que j'ai, l'expérience que j'ai eue à travers la première étape en faisant le travail à travers le gros livre, c'est que je savais pas que j'étais pas honnête avec moi-même, en fait. Et en étant honnête avec une autre outre-mangeuse, en étant honnête avec ce que je mangeais, comment je mangeais, quand je mangeais, puis il y avait des fois, j'avais pas envie de donner ma nourriture à ma marraine. Il y a beaucoup de fois que j'avais pas envie. Mais j'étais désespérée de rétablir, en fait. Et donc, en étant honnête avec juste une autre mangeuse, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un comme moi qui avait la même maladie, en lui disant, voilà, ça c'est ce que je mange et comment je mange, etc. Juste en étant honnête avec elle, bah, je sais pas, il y a quelque chose de magique, en fait, qui a commencé à s'ouvrir. Et donc, ça m'a permis de rentrer en étape 2 avec un cœur un petit peu plus ouvert. Et pour la première fois, j'ai vraiment vécu de l'espoir. Je ne savais pas ce que c'était d'espérer avant. Vraiment pas. Avant, tout était très catastrophique. C'était non, j'allais perdre mon job. Non, cette relation n'allait pas marcher. Non, mon corps, il va pas bien. J'ai jamais. Ouais, c'était toujours du désespoir et j'ai jamais, jamais expérimenté cet espoir. Et donc, c'est vrai que mes premières relations intimes avec Dieu, elles étaient difficiles parce que bah, la seule relation intime entièrement que j'avais, c'était avec la nourriture. Donc, en fait, l'expérience que j'ai eue, c'était est-ce que je suis prête à laisser en fait Dieu rentrer entre moi et la nourriture? Et la relation que j'ai avec la nourriture, c'est un petit peu comme une relation abusive en fait. C'est comme rencontrer un partenaire qui est très charmant au début, qui me charme, qui dit t'es belle, t'es magnifique, t'es la plus belle, viens vers moi, voilà, qui me blabla, quoi, qui me dit viens, mange-moi, voilà. Oui, je mange. Et puis après, qui me frappe et qui me dit ah, oh, excuse-moi, tu te sens mal, je t'ai frappé, bah tiens, vas-y, va bouffer. Et c'est la même relation abusive que j'ai avec la nourriture et j'arrivais jamais à m'en détacher. Il n'y avait pas de régime, il n'y avait pas de perdre du poids, il n'y avait pas de psychologie que je pouvais casser, en fait, cette chaîne. Et donc, quand je suis arrivée en étape 2,
Il
j'ai
te reste
compris le.
5 minutes. Pardon, excuse-moi, il te reste 5 minutes.
Super, ma belle, merci. Et donc, en fait, en étape 1, j'ai vraiment eu l'expérience à quel point mais je n'ai aucun pouvoir de manger. Je ne sais pas manger, je ne saurais jamais manger. J'ai dit, mais c'est bien, mais bon, il faut quand même que pour survivre, on mange, hein. C'est pas comme d'autres substances dont j'ai pas besoin. Et c'est là où j'ai commencé vraiment en étape 2, ouvrir mon cœur en fait à cette possibilité d'avoir une relation spirituelle. Et donc j'ai laissé rentrer Dieu. Et donc en fait j'ai commencé à laisser Dieu guider comment je mange, comment est-ce que je vais manger mes 3 repas par jour, qu'est-ce que je vais manger, quand est-ce que je vais manger, etc. Et donc cette étape 3 de vraiment faire confiance, et ma première étape 3 c'était vraiment on est rentré en méditation, donc on fait beaucoup de méditation dans le rétablissement OA, dans le monde anglophone. On rentre en méditation et puis j'ai vraiment vu, bah, j'étais au bord de la falaise et puis bah, j'ai entendu une voix qui me dit bah, saute. Et normalement, moi, j'aime beaucoup contrôler les choses, hein, je suis une addict, ça va avec le comportement de l'addict. Et j'ai dû sauter en fait dans le vide et faire confiance à ma puissance supérieure sans savoir bah attends il est où le parachute et qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, etc. C'était ok, je saute, je te fais confiance, parce qu'en fait je ne pouvais plus compter sur ma tête, elle est pleine de maladies quand ça vient en pensée de la nourriture. Je pouvais pas en fait compter sur ma tête malade pour me donner une réponse saine. C'était ça en fait la folie, c'est que je demandais toujours à ma tête de me donner des réponses saines quand en fait ma tête elle est malade. Et c'est là où j'ai vraiment dû rentrer dans cette autre dimension spirituelle. Et puis je suis pas bouddha, loin de l'être, mais vraiment avoir des pratiques spirituelles et travailler les 12 étapes pour vraiment travailler ce muscle spirituel et laisser rentrer Dieu. Mon étape 4, elle était très puissante. C'était vraiment, j'ai apporté toute ma douleur, tous mes 20 ans de douleur dans mon étape 4, et de pouvoir de partager ça en étape 5 avec une autre personne. C'était une expérience de spiritualité, d'intégrité qui était très forte, qui était très puissante. Et c'est-à-dire que ça m'a vraiment permis de rentrer en étape 6 et 7 et de vraiment de dire non, je ne vais pas me libérer personnellement de mes défauts. Je donne mes défauts, je donne, si vous voulez, les croyances auxquelles j'ai, et surtout celles de c'était beaucoup à l'époque autour de mon corps, autour de ma sexualité, autour de mes relations, je les donne à Dieu. Voilà. Parce que je ne savais pas comment avoir une relation saine avec moi-même. Je ne savais pas comment avoir une relation saine sexuelle. Parce que je ne savais pas comment avoir une relation saine avec la nourriture. Donc pour moi, la nourriture est très entreliée avec ma relation sexuelle et ma relation avec les autres. Et si je ne laisse pas cette solution spirituelle m'apprendre à me nourrir, à nourrir ce corps que Dieu m'a donné, je ne sais pas avoir une relation saine avec les autres, avec un partenaire intime et surtout sexuel. Et donc j'arrive en étape 9. Et là, je me rends compte que je dois reconnecter avec mon ex-mari et faire un pardon envers lui. Lui m'avait demandé faire un pardon depuis plusieurs années. Et à chaque fois, je lui dis, non, 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 c'est bon. Tu vas faire ta vie. T'es plus alcoolique. C'est bien pour toi. T'es chez AA. Super. Non, non, j'ai pas besoin de te parler. Enfin, j'avais aucun ressenti contre le gars. Hein. J'étais faite. C'était bon. Allez, allez, donne. On est fait. On est cuit. Et je suis arrivée en étape, et le gars, il était même pas sur mon, il était pas sur son étape 4. Pourtant, il a fait des belles conneries en 8 ans et demi d'alcoolique. Il en a fait des belles, mais je pouvais pas expliquer. Non, c'est bon. Donc, lui était reparti vivre en France parce qu'il m'avait rejoint en Angleterre qu'on était ensemble. Et il était reparti vivre en France. Il m'a dit, écoute, pas de problème. La semaine prochaine, je viens en Angleterre. On le fait face à face. Et donc, il est arrivé à Londres, on s'est posé dans un café, dans un endroit relativement silencieux, et puis on a fait notre étape 9 ensemble. Et c'était la chose la plus libératrice que j'avais vécue jusqu'à là de ma vie. De lui faire son pardon et de moi faire mon pardon aussi. Quelque chose s'est complètement libéré à l'intérieur de moi. J'ai beaucoup prié pour cette étape, j'ai beaucoup amené Dieu dans cette étape 9. Et une fois que je m'étais libérée, en fait, énormément dans cette étape 9, mon étape 10, 11 et 12 vont vraiment découler d'elles-mêmes et je pourrais faire plus de partage là-dessus si vous avez des questions un peu plus tard. Mais ce que je voulais vraiment partager dans ce partage, c'est qu'après avoir fait cette étape 9 avec mon ex-mari, 3-4 mois plus tard, ma relation avec Dieu était beaucoup plus forte, ma relation avec la nourriture était beaucoup plus saine. C'était mes 3 repas par jour. La quantité était à un pied égal, en fait. Et j'étais enfin prête à rentrer dans une relation où je me souviens très bien, c'était au mois de décembre, un matin, je me suis levée, cette inspiration de me dire, ça y est, je suis prête à partager ma vie avec un autre. Et ça, c'était très choquant parce que ben, j'étais mariée avant. Et j'avais jamais partagé ma vie avec mon ex-mari. Je savais pas être intime avec mon ex-mari. Oui, sexuellement. Pour moi, le côté sexuel était vraiment quelque chose de mécanique. Enfin, oui, je prenais du plaisir, mais il y avait toujours un mur entre moi et cette personne. C'était toujours la nourriture et après les autres. Et donc, c'est là, en même pas, je pense, 5 semaines après que j'ai eu cette inspiration, que j'ai rencontré mon partenaire Joël. Et je suis rentrée dans une relation intime, mature, belle. On s'amuse aussi beaucoup. Et on va se marier la semaine prochaine. Cette relation pour moi est vraiment le miracle de l'étape 9, est vraiment le miracle du rétablissement, est vraiment le miracle. J'arrive pas à croire que j'ai une solution spirituelle, surtout d'où je viens. Et quand il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans OA et commencent à comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est le rétablissement? On me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que je dois manger, quand est-ce que je mange, qu'est-ce que je dois, voilà. Et je peux tout à fait comprendre ces questions. Mais pour moi, le plan alimentaire est un outil. Le brancher à l'intérieur de moi dans mes pensées un peu insaines de la nourriture, ou est-ce que je vais le brancher dans ma connexion avec Dieu? Et c'est vraiment le plus je donne ma nourriture, et toujours aujourd'hui, plus je donne ma nourriture à Dieu, et plus ma nourriture, elle est saine, elle est belle, elle est neutre, et c'est quelque chose que j'arrive pas à croire aujourd'hui, que j'ai 3 repas par jour, qu'il n'y a rien entre les repas, qu'il n'y a pas de pensée. C'est ça aussi qui me sidère, que je n'obsessionne plus sur la nourriture. Pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui. Même aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. Et en fait, j'ai
Temps
un
écoulé,
rituel au fur
Gemma.
et à mesure.
Gemma,
Hein?
excuse-moi. Temps écoulé. Ça fait 20 minutes.
D'accord. Donc voilà, je vais vous
Respire.
laisser là-dessus. Je vais finir de dire, ben voilà, au bout de 6-7 ans, OA m'a vraiment, vraiment, vraiment sauvée, m'a vraiment appris, les autres m'ont appris à avoir une relation avec ma puissance supérieure. Et merci de m'avoir ici, de faire un partage en français. C'est absolument incroyable. Et ouais, n'hésitez pas, je vais rester après le meeting si vous avez des questions. Et merci de m'avoir dans ce meeting. Merci.